Chapitre 42. Pour une meilleure compréhension du crédit social. Article d'Alain Pilote, paru dans Verdemain de mars-avril 1995. Imprimer de l'argent sans limite. Les banquiers internationaux craignent tellement l'application du crédit social, qui mettrait justement fin à leur contrôle de la vie économique, qu'ils ont tout essayé pour stopper sa progression dans les esprits. Alors, une des tactiques favorites des financiers sera de falsifier ces principes et de les présenter d'une façon absurde et ridicule dans les médias pour empêcher que davantage de gens y adhèrent. Nous en avons eu un exemple tout récemment avec le journal La Voix de l'Est, de Granby du 8 décembre dernier 1994, qui rapportait que la députée de Shepherd, Diane Saint-Jacques, avait déposé à la Chambre des communes la pétition des Bérets blancs pour demander d'effacer la dette nationale. Il l'avait appris dans Verdemain et avait même reproduit une partie de notre journal montrant la photo de la députée. Mais voilà que les journalistes de la Voix de l'Est prétendent que ce que les Bérets blancs demandent dans leur pétition, c'est d'imprimer de l'argent pour effacer la dette, ce qui est irréaliste, complètement farfelu, et entraînerait une inflation épouvantable, et s'empresse d'ajouter que cela prouve que les Bérets blancs ne connaissent absolument rien en économie. Ces journalistes de la Voix de l'Est ont raison de dire que d'imprimer de l'argent pour payer la dette est complètement farfelu. Mais ils sont tout à fait malhonnêtes en disant que c'est ce que les Bérets blancs préconisent. S'ils avaient voulu faire un reportage honnête, ils n'avaient qu'à contacter le bureau de Verdemain, ou tout simplement lire l'article qui précédait celui qu'ils ont cité et qui expliquait très bien le sens de notre pétition. Quand nous, du journal Verdemain, demandons dans notre pétition d'effacer les dettes publiques, c'est exactement ce que cela veut dire, les effacer, et non pas les rembourser, et encore moins imprimer de l'argent pour les rembourser. Ce que les Bérets blancs préconisent, c'est justement d'émettre l'argent selon la production, mais ça, les journalistes de la Voix de l'Est semblent incapables de le comprendre. Ils n'ont pas l'honnêteté de le dire. Nous n'avons donc aucune félicitation à faire à ces journalistes pour leurs propos mensongers et leur campagne de désinformation. Cet argument farfelu, qui dit que les Bérets blancs veulent imprimer de l'argent sans limite, n'est pas nouveau. C'est même l'argument préféré des financiers qu'ils n'ont pas cessé de colporter depuis des années pour nuire au véritable principe du crédit social. C'est même ce que la plupart des livres d'économie répètent faussement. Alors, quand on leur parle de crédit social, ceux qui n'ont jamais lu Verdemain ne font que répéter les mensonges des financiers. Votre affaire, le crédit social, ça ne tient pas debout. Voyons donc, imprimer de l'argent comme ça sans arrêt, ça va faire de l'inflation. Et en disant cela, ils pensent avoir tout dit du crédit social, alors qu'ils ignorent tout du sujet, ne connaissant absolument rien de la circulation de l'argent sous un système créditiste, rien de l'escompte compensé ou du dividende. Ce dont ils ont entendu parler, c'est d'un faux crédit social, d'une version falsifiée par les financiers. Voici donc un résumé du vrai crédit social, basé sur les deux brochures de Louévent, « Qu'est-ce que le vrai crédit social ?» et une finance saine et efficace. Comptabilité exacte. Tout d'abord, définissons les mots crédit social. Au lieu d'avoir un argent créé par les banques à intérêt, un crédit bancaire, on aurait un argent créé sans dette par la société, un crédit social. Le système du crédit social ne vise à rien d'autre qu'à faire de l'argent un reflet exact des réalités économiques. Il n'est donc aucunement question dans le crédit social d'émettre ou imprimer de l'argent n'importe comment, de façon irresponsable ou sans limite, comme se plaise à le faire croire les financiers, ou selon les caprices des politiciens au pouvoir. La vraie méthode proposée, la voici. Le gouvernement nommerait une commission de comptables, un organisme indépendant appelé Office national de crédit, qui serait chargé d'établir une comptabilité exacte. L'argent serait émis au rythme de la production et retiré de la circulation au rythme de la consommation. On aurait ainsi un équilibre constant entre la capacité de produire et la capacité de payer, entre les prix et le pouvoir d'achat. Ce que les Bérets blancs demandent, c'est que le gouvernement cesse d'emprunter des banques privées de l'argent qu'il peut créer lui-même sans intérêt par sa banque centrale. Même le premier gouverneur de la Banque du Canada, Graham Towers, admettait en 1939 devant un comité de la Chambre des communes, que cela était parfaitement faisable lorsqu'on lui demanda pourquoi un gouvernement devrait payer de l'intérêt pour de l'argent qu'il peut créer lui-même sans intérêt. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Banque du Canada a créé jusqu'à 50% de l'argent du pays sans inflation. Aujourd'hui, elle en crée moins de 2%. Le reste, 98%, est créé par les banques sous forme de prêts. Bien des gens ignorent ce fait et ne savent pas que les banques privées, contrairement aux autres prêteurs, créent l'argent qu'elles prêtent et qu'elles ne prêtent pas l'argent de leurs déposants. Que l'argent soit créé par la Banque du Canada ou les banques privées, il faut bien qu'il soit créé quelque part. Il s'agit des mêmes chiffres, basés sur la même production du pays. La seule différence, et elle est de taille, c'est que si le gouvernement emprunte de sa propre banque centrale, il n'encourt aucune dette. 100 dollars créés sans intérêt par la banque centrale ou 100 dollars créés avec intérêt par une banque privée, lequel des deux va créer de l'inflation? Même un enfant de 10 ans trouverait tout de suite la réponse. C'est celui qui est créé avec intérêt par la banque privée. L'inflation, c'est la hausse des prix, causée par la hausse des coûts de production et les intérêts à payer par les producteurs aux banques font partie de ces coûts. Ce qui est tout à fait incroyable et contraire à la logique la plus élémentaire, c'est que les économistes disent pour arrêter l'inflation, la hausse des prix, il faut augmenter le taux d'intérêt, alors qu'au contraire, toute hausse des taux d'intérêt fait nécessairement augmenter les prix. Le système farfelu, ce sont eux qui le préconisent, pas les créditistes de verre de main. Mais le crédit social ne se limite pas seulement à une simple question de création d'argent. Il y a aussi le dividende et l'escompte compensé. Le dividende. Parce que les salaires ne suffisent pas pour acheter toute la production existante, les salaires ne forment qu'une partie des coûts de production de n'importe quel article. L'Office national de crédit distribuerait à chaque citoyen un dividende mensuel, une somme d'argent pour combler le pouvoir d'achat et pour assurer à chacun une part des biens du pays. Ce dividende serait basé sur les deux plus grands facteurs de production moderne, l'héritage des richesses naturelles et des inventions des générations passées, tous deux dons gratuits de Dieu, qui appartiennent donc à tous. Ceux qui seraient employés dans la production recevraient encore leur salaire, mais tous, salariés comme non salariés, recevraient le dividende. La formule du dividende serait infiniment préférable au bien-être social, l'assurance chômage et autres lois actuelles de sécurité sociale, car il ne serait pas pris dans les taxes de ceux qui travaillent, mais serait financé par de l'argent nouveau créé par l'Office national de crédit. Personne ne se ferait donc vivre par les taxes des contribuables. Ce serait un héritage dû à tous les citoyens du pays, qui sont, pour ainsi dire, tous actionnaires de la Compagnie Canada Limitée. Et contrairement au bien-être social, ce dividende serait sans enquête. Il ne pénaliserait donc pas ceux qui veulent travailler. Loin d'être une incitation à la paresse, il permettrait aux gens de s'occuper dans l'activité de leur choix, celle où ils ont des talents. D'ailleurs, si les gens arrêtaient de travailler, le dividende baisserait automatiquement, puisqu'il est basé sur la production existante. Sans ce revenu non lié à l'emploi, le progrès devient non plus un allié de l'homme, mais une malédiction, puisqu'en éliminant le besoin de labeur humain, il fait perdre aux travailleurs leur seule source de revenus. Finance des travaux publics. Comment se ferait le financement des services et travaux publics avec un tel système d'argent social? Chaque fois que la population désirerait un nouveau projet public, le gouvernement ne se demanderait pas « A-t-on l'argent? » mais « A-t-on les matériaux, les travailleurs pour le réaliser? » Si oui, l'Office national de crédit créerait automatiquement l'argent nécessaire pour financer cette production nouvelle. Supposons par exemple que la population désire un nouveau pont, dont la construction coûte 50 millions de dollars. L'Office national de crédit crée donc 50 millions de dollars pour financer la construction de ce pont. Et puisque tout argent nouveau doit être retiré de la circulation, lors de la consommation, ainsi l'argent créé pour la construction du pont devra être retiré de la circulation lors de la consommation de ce pont. De quelle manière un pont peut-il être consommé? Par usure ou dépréciation? Supposons que les ingénieurs qui ont construit ce pont prévoient qu'il durera 50 ans. Ce pont perdra donc 1/50 de sa valeur à chaque année. Puisqu'il a coûté 50 millions de dollars à construire, il subira donc une dépréciation de 1 million de dollars par année. C'est donc 1 million de dollars qui devront être retirés de la circulation à chaque année pendant 50 ans. Au bout de 50 ans, le pont sera complètement payé, sans un sou d'intérêt ni de dette. Est-ce que ce retrait d'argent se fera par les taxes? Non. Cela n'est nullement nécessaire, dit Douglas, le concepteur du système du crédit social. Il existe une autre méthode, bien plus simple, pour retirer cet argent de la circulation, celle de l'ajustement des prix, appelé aussi escompte compensé. D'ailleurs, sous un système de crédit social, les taxes diminueraient de façon drastique, et la plupart disparaîtraient tout simplement. Le juste principe à observer, c'est que les gens ne paient que pour ce qu'ils consomment. Par contre, il serait injuste de faire payer à la population de tout le pays des services qui ne sont offerts que dans une rue ou une municipalité, comme un service d'eau, d'égout ou de vidange. Ce sont ceux qui bénéficient de ces services qui auront à payer la municipalité qui les fournit. L'ajustement des prix. De quelle manière cet ajustement des prix fonctionnerait-il? L'Office national de crédit serait chargé de tenir une comptabilité exacte de l'actif et du passif de la nation, ce qui ne nécessiterait que deux colonnes. D'un côté, on inscrirait tout ce qui est produit dans le pays durant la période en question, l'actif, et de l'autre, tout ce qui est consommé, le passif. Le 1 million de dollars de dépréciation annuelle du pont, de l'exemple mentionné plus haut, serait donc inscrit dans la colonne « passif » ou « consommation » et ajouté à toutes les autres formes de consommation aux disparitions de richesses durant l'année. Douglas fait aussi remarquer que le vrai coût de la production, c'est la consommation. Dans l'exemple du pont, le prix comptable était de 50 millions de dollars, mais le prix réel du pont, c'est tout ce qu'il a fallu consommer pour le produire. S'il est impossible de déterminer pour un seul produit quel a été son prix réel, on peut par contre facilement savoir quel a été durant une année le prix réel de toute la production du pays. C'est tout ce qui a été consommé dans le pays durant la même période. Ainsi, si les comptes nationaux du Canada montrent que, dans une année, la production privée, la production de biens consommables, a été de 500 milliards de dollars, et que pendant la même année, la consommation totale a été de 400 milliards de dollars, cela veut dire que le Canada a été capable de produire pour une valeur de 500 milliards de produits et services, tout en ne dépensant ou consommant que pour une valeur de 400 milliards. Autrement dit, cela démontre qu'il en a coûté réellement 400 milliards pour produire ce que la comptabilité des prix établit à 500 milliards. Le vrai prix de la production est donc de 400 milliards. La population doit donc pouvoir obtenir le fruit de son travail, la production de 500 milliards, en payant seulement 400 milliards, car il a été bien établi plutôt que l'argent ne doit être retiré que selon la consommation. S'il s'est consommé pour 400 milliards de produits et services, on ne doit retirer de la circulation que 400 milliards, ni plus ni moins. Escompte sur les prix. Comment faire pour que les consommateurs canadiens puissent obtenir pour 500 milliards de dollars de produits et services, tout en ne payant que 400 milliards de dollars? C'est très simple. Il suffit de baisser le prix de vente de tous les produits et services de 1/5, soit escompte de 20%. L'Office national de crédit décrète donc un escompte de 20%. Sur tous les prix de vente pendant le terme suivant. Par exemple, le client n'aura qu'à payer 400 $ pour un article étiqueté à 500 $. Mais s'il ne veut pas faire faillite, le marchand doit quand même récupérer 500 $ pour la vente de cet article et non pas seulement 400 $, car ce prix de 500 $ inclut tous ses frais. C'est pourquoi on parle d'un escompte compensé. Dans ce cas-ci, le marchand sera compensé par l'Office national de crédit qui lui enverra le 100 $ qui manque. Pour chacune de ces ventes, le marchand n'aura qu'à présenter ses bordereaux de vente à l'Office national de crédit qui lui remboursera l'escompte accordé au client. Ainsi, personne n'est pénalisé. Les consommateurs obtiennent les produits qui, sans cela, resteraient invendus, et les marchands récupèrent tous leurs frais. Inflation impossible. Grâce à ce mécanisme de l'escompte sur les prix, toute inflation serait impossible. En effet, l'escompte fait baisser les prix. Et l'inflation, ce sont les prix qui montent. La meilleure manière d'empêcher les prix de monter, c'est de les faire baisser. De plus, l'escompte sur les prix est exactement le contraire de la taxe de vente. Au lieu de payer les produits plus chers par des taxes, les consommateurs les paient moins cher grâce à cet escompte. Qui pourrait s'en plaindre? On voit bien alors que ceux qui disent que le crédit social va faire de l'inflation parlent à travers leur chapeau, car ils ignorent l'existence de l'escompte compensé. Bien sûr, s'il n'était question dans le crédit social que d'imprimer de l'argent et rien d'autre, les craintes de l'inflation seraient justifiées. Mais justement, le crédit social possède une technique pour faire face à tout danger d'inflation. Il existe trois principes de base dans le crédit social. Premièrement, l'argent émis sans dette par le gouvernement représentant la société selon la production et retiré de la circulation selon la consommation. Deuxièmement, le dividende mensuel à tous les citoyens. Troisièmement, l'escompte compensé. Les trois sont nécessaires. C'est comme un trépied. Enlevez un de ces trois principes et le reste ne tient plus. Toute cette technique du crédit social, telle qu'expliquée très brièvement ci-haut, n'a qu'un but. Financer la production des biens qui répondent aux besoins et financer la distribution de ces biens pour qu'ils atteignent les besoins. En examinant la circulation du crédit sur le schéma ci-dessous, on s'apercevra que l'argent ne s'accumule en aucun temps, qu'il ne fait que suivre le mouvement de la richesse, entrant en circulation au rythme de la production et prenant la voie du retour vers sa source, Office national de crédit, au rythme de la consommation, lorsque les produits sont achetés chez le marchand. En tout temps, l'argent demeure un reflet exact de la réalité. De l'argent apparaît lorsqu'un nouveau produit apparaît, et cet argent disparaît lorsque le produit disparaît et consommé. Où est l'inflation là-dedans? Tout cela ouvre des horizons et possibilités insoupçonnées. Pour que ces possibilités deviennent réalité, il faut que tous connaissent le crédit social. Et pour cela, il faut que tous le soient vers demain. Amis lecteurs, c'est là votre responsabilité entre en jeu. Vous qui avez compris le crédit social, c'est votre devoir de le faire connaître aux autres en sollicitant autour de vous l'abonnement vers demain. Bon succès. La circulation de l'argent dans un système de crédit social. De l'argent est avancé aux producteurs, industrie, par l'Office national de crédit, pour la production de nouveaux biens, ce qui amène un flux de produits étiquetés avec des prix et des salaires distribués aux employés. Puisque les salaires ne suffisent pas pour acheter toute la production, l'Office de crédit comble la différence par l'émission d'un dividende périodique à tous les citoyens. La rencontre des consommateurs et des produits se fait chez le marchand. Et lorsqu'un produit est acheté, consommé, l'argent qui avait été avancé au début de la production de ce produit retourne à sa source, l'Office national de crédit, ayant ainsi accompli sa fonction et terminé sa course dans le circuit financier, puisque le produit a atteint le consommateur. En tout temps, il y a une égalité entre les moyens d'achat, entre les mains de la population, et les prix à payer pour les biens consommables mis en vente sur le marché.